Radio Pleine Lune, vous venez d'entendre Matriarca Blues des Flying Lesbiennes. Et place maintenant à l'émission sur les banques.
Bonsoir, ce soir c'est la pleine lune sur Radio Zone 101,4 MHz. Nous vous rappelons que vous pouvez nous téléphoner au 2193 en faisant le 023 depuis la Suisse. Nous commençons cette émission qui va traiter d'un sujet très sérieux, les banques suisses. Nous commençons cette émission par quelques petites informations, comme d'habitude. Tout d'abord, nous vous rappelons les informations concernant le Centre Femmes de Genève. Nous vous rappelons que des groupes s'y réunissent régulièrement. L'OFRA, que vous pouvez contacter en écrivant à la case postale 2 1227 Carouge. Le Comité contre le viol se réunit tous les jeudis à 20h30. Le groupe des femmes de langue anglaise, English Speaking Feminist, se réunit le mardi tous les 15 jours. Il y a un bistrot tous les jeudis à partir de 19h. Nous pouvons vous annoncer aussi le prochain bal des chattes sauvages qui aura lieu le vendredi soir 1er octobre. Enfin, nous voulons vous signaler que le nouveau numéro de CLIT, concentré lesbien irrésistiblement toxique, va sortir la semaine prochaine. Réjouissez-vous. Nous avons reçu un bulletin de l'agence Femmes Information. C'est une agence de presse montée par des femmes pour diffuser des informations sur les femmes. Et dans ce bulletin que nous avons reçu, nous avons trouvé quelques informations concernant les femmes dans les radios locales privées. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup car nous nous sentons les premières concernées. Or, voilà ce qui se passe. D'après le bulletin de l'AFI, on peut d'ores et déjà affirmer que les femmes n'ont et n'auront pas de station, ni en province, ni à Paris, à la différence d'autres groupes sociaux comme les homosexuels, les émigrés, les juifs et les étudiants. Et oui, il n'y aura pas de radio de femmes en France, en tout cas pour l'instant. Qu'est-ce que font les femmes? Elles ne sont pas complètement absentes du mouvement des radios libres. Elles participent, comme nous, ici à Radio Zone, à des radios mixtes. Elles sont plus ou moins, fortes dans ces radios, et d'une manière générale, elles sont cependant tout à fait minoritaires. Elles ne sont pas très nombreuses dans les structures de ces radios, elles sont très rarement présidentes de radios. Voilà, c'était cette petite nouvelle, pas très 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 encourageante, que je voulais vous donner. Ensuite, je voulais vous donner quelques nouvelles autour du tiers-monde. Vous vous rappelez peut-être d'une action dont nous avions parlé concernant une imprimerie qui devait être montée par les femmes au Salvador, l'Association des femmes du Salvador, l'AMES. Une récolte de fonds a été organisée par un groupe de femmes de Genève qui visait à réunir à peu près 13 000 francs. C'était le budget établi par ces femmes pour pouvoir monter cette imprimerie. Eh bien, nous avons le plaisir de vous dire que cette somme a été réunie, qu'elle a été envoyée au Salvador. Et malheureusement, nous n'avons pas encore eu d'autres nouvelles. Comme vous le savez, la situation au Salvador a changé entre le moment où la récolte de fonds a été faite, c'est-à-dire avant ces dernières élections. Et nous ne savons pas très très bien en ce moment quelles sont les tactiques et les stratégies des différents mouvements, de libération. Est-ce que c'est encore possible de monter cette imprimerie ? Nous allons tout faire pour tâcher de le savoir et pour pouvoir vous donner des nouvelles. Nous voulons vous signaler aussi, pour toutes celles que le thème de la faim intéresse, la faim dans le monde, que le samedi 16 octobre, à Lausanne, de l'après-midi, de 14h30 jusqu'à 1h du matin, à l'EPFL, c'est-à-dire à l'École Polytechnique de Lausanne, il y aura un forum de l'alimentation, sur le thème de l'alimentation, où tous les thèmes seront abordés, c'est-à-dire à la fois le problème des pays dans lesquels on meurt de faim, et aussi faire le lien avec notre propre manière de nous alimenter, notre propre alimentation, et comment on peut s'alimenter de façon, disons, responsable. Voilà, encore une petite information, nous avons reçu du kiosque du boulevard qui se trouve 25 boulevard du Pont d'Arve à Genève, une petite bibliographie sur l'Amérique latine. Il y a des résumés de différents livres qui ont paru sur l'Amérique latine. Ça a l'air très bien, très intéressant. Alors celles et ceux qui s'intéressent à l'Amérique latine, nous vous recommandons d'aller au kiosque du boulevard, de demander cette bibliographie et d'acheter beaucoup de livres parce que eux, ça leur fait plaisir quand on leur achète des livres. Voilà, on va passer maintenant au thème de la soirée.
Voilà, bien. Je ne sais pas si vous avez la même impression que nous, mais nous, en tout cas, on se sent souvent très bizarre en Suisse. On a l'impression de vivre vraiment dans un drôle de pays, dans une planète un peu étrange, comme si on était des Martiens, qu'on arrivait dans une planète qu'on ne comprend pas, on regarde autour de nous. On marche dans les rues et qu'est-ce qu'on voit ? Des banques. UBS, SBS, Crédit Suisse, Paribas, et j'en passe. À Genève, il y a beaucoup plus de banques que d'endroits, en tout cas, pour rigoler, pour être bien. Peut-être pas plus que de bistrots, mais en tout cas plus d'endroits que pour les femmes, en tout cas, ça, on est sûr. Il semble qu'il y a plus que 300 établissements bancaires à Genève. C'est-à-dire, on ne compte pas les succursales, les 20 succursales de l'UBS, les 50 succursales de la SBS, etc. Seulement, d'établissements bancaires, il y en a plus que 300. Il suffit d'ailleurs de regarder dans le bottin, aux pages des banques, et de voir combien il y en a. Marcher à Genève, c'est marcher comme sur un gros gruyère, rempli de fric, d'or, de chèques, de titres, etc. Les rues basses sont truffées de banques et truffées de caves remplies de fric. Chaque banque a en tout cas 10 à 12 étages souterrains où elle amasse ses coffres pleins d'argent, pleins d'or, pleins de bijoux, des gros richards qui se planquent en Suisse. Alors, ça nous posait pas mal de problèmes. On avait envie de réfléchir un peu à ce problème de qu'est-ce que c'était que ce pays qu'on vivait et pourquoi c'était devenu ce pays. Alors, on espère que ce ne sera pas une émission trop sérieuse et trop rébarbative. Vous pouvez en tout cas nous téléphoner au 20 01 01 93 pour nous faire part de vos remarques, de vos suggestions ou nous dire comment vous appréciez cette émission. En tout cas, on aime beaucoup les téléphones, alors n'hésitez pas.
Aujourd'hui, donc, une fois n'est pas coutume, nous allons parler de ces banques, de la situation de la Suisse comme place financière, de comment on en est arrivé à cette formidable concentration de capitaux qui, en fait, détermine beaucoup de notre vie, même si on ne fait pas partie des riches et des puissants. Nous allons essayer de vous raconter et de vous lire quelques extraits d'un livre qui est paru le printemps dernier, qui s'appelle « Le pouvoir des banques suisses » de Jean Saunier. Jean Saunier est un syndicaliste français qui soutient le nouveau gouvernement de gauche, évidemment, et qui prend clairement position dans le débat sur la fuite des capitaux français. Mais nous, la fuite des capitaux français, c'est pas ça qui nous empêche de dormir particulièrement. S'il n'y avait que les Français à venir mettre leur argent au frais dans nos montagnes, eh bien, à la limite, ça pourrait bien nous être égal. Mais hélas, à peu près tout ce que la Terre comporte comme gangsters, comme tortionnaires, comme exploiteurs, et j'en passe, de toutes les nationalités imaginables, tous ces gens, on peut le dire, je crois, possèdent au moins chacun un compte à numéro secret en Suisse. Et à peu près tous ces gangsters, et tous ces tortionnaires et tous ces exploiteurs viennent faire de fréquents séjours dans notre pays pour régler leurs affaires. Et par la même occasion, ils y possèdent une petite maison ou une grande maison ou un chalet ou un appartement de luxe. Quand vous ouvrez les journaux, chaque semaine, chaque jour, vous voyez à propos des différents scandales financiers qu'il y a dans le monde, en Italie ou ailleurs, chaque fois les banques suisses y sont mêlées. Comment cela est-il possible? Comment la Suisse en est-elle venue là? Comment ce pays, qui était un petit pays comme n'importe quel autre pays il y a quelques siècles, est devenu cette chose un peu monstrueuse? Alors, à l'aide du livre de Jean Saunier, d'un chapitre de ce livre, où il se pose la même question, nous allons essayer de trouver quelques réponses. Tout d'abord, Jean Saunier nous redonne l'argumentation officielle qui est diffusée par les banques dans ces innombrables brochures luxueuses qu'elles éditent à grands frais et qu'elles distribuent en général gratuitement.
Alors pour les banquiers, comme on vient le dire, ils expliquent dans leur brochure pourquoi cette Suisse est devenue ce paradis bancaire. La Suisse, petit pays très pauvre en matières premières, se voit obligée de développer un important marché extérieur. La créativité et l'initiative des entrepreneurs de l'époque sont à l'origine d'une croissance sans pareil. Le goût du travail, l'esprit positif du peuple suisse, un sens réjouissant de l'épargne qui s'est maintenu envers et contre tout, ainsi que l'abondance de l'offre de l'épargne ont permis l'exportation des capitaux et favorisé aussi la constitution de volumineuses réserves monétaires. La ténacité, l'esprit d'initiative, l'audace, la créativité des pionniers de l'industrialisation. Par ailleurs, la Suisse, par ses conditions géographiques favorables, située au cœur de l'Europe, au point d'intersection des grands courants commerciaux, cette situation aurait favorisé le développement des banques. Autre avantage, le fait qu'il y a trois langues et aussi le fait que c'est un pays de villégiature. Autre argument de masse pour les banquiers, la Suisse a été à l'abri des répercussions des guerres mondiales. Ah ah ah, on verra après à quel prix. Qualité de la Suisse, stabilité intérieure et protection de la propriété privée traditionnelle. Là aussi, on le verra à quel prix. Et bien sûr, par la paix du travail. Par la paix du travail, signée en 1937, la Suisse est à l'abri, par exemple, des objectifs utopiques des syndicats étrangers. Pour ces brochures, tous ces aspects expliquent donc l'expansion économique de la Suisse et son devenir de paradis bancaire. Pays d'asile par excellence, la Suisse assure protection depuis des siècles aux personnes qui se sentent menacées et à leur fortune. Merveilleuse assimilation de la personne et de la fortune.
De vrai dans ses explications. En ce qui concerne le caractère national, notre auteur, Jean Saunier, nous dit « Des qualités du peuple suisse souvent mises en avant, je ne discuterai pas, bien que j'aie pour lui de l'amitié et en tout cas le goût de vivre à son rythme, du moins de temps à autre, je ne suis pas convaincu que ces qualités propres suffisent à expliquer la puissance de la place financière. Application, esprit positif, goût du travail, sens de l'épargne, etc. sont assurément des qualités indéniables. Il est juste de dire qu'elles ne sont pas spécifiques, ni par rapport aux voisins, ni par rapport aux autres peuples du monde. Les peuples de la zone Caraïbe peuvent avoir d'autres qualités et d'autres défauts que ceux du peuple suisse. Cela n'empêche pas leurs dirigeants d'avoir créé des paradis bancaires et fiscaux dans lesquels les banques suisses ne dédaignent pas d'ouvrir des succursales. Néanmoins, il est de fait de dire que ces qualités ont pu, à un titre ou à un autre, aider la mise en place en Suisse d'un système bancaire très élaboré, sans plus. Quant à l'argument du peuple suisse, l'argument comme quoi un peuple qui devait lutter contre tant de différences, qui devait s'unir à tout prix, unir différentes religions, unir différentes langues, tout cela favorisait le fait qu'il devienne une grande place financière. Là, Jean Saunier nous dit « D'autres États ont connu la difficulté de faire coexister peuple, langue et religion, et peu ont acquis la dimension financière internationale de la Suisse. Même les Libanais se sont cassés le nez. Pour d'autres raisons, il est vrai. Ils avaient pourtant copié la législation suisse. » Bon, on a vu que les qualités du peuple suisse et sa diversité culturelle ne suffisait pas à expliquer pourquoi la Suisse était devenue une place financière. Bien sûr, la situation centrale en Europe a joué un rôle, et elle le joue encore dans l'attrait que la Suisse exerce, car c'est un carrefour géographique et qui est très très bien relié par tous les moyens de transport, évidemment. En plus, il n'est pas douteux non plus que le tourisme et le remarquable équipement hôtelier dont s'est doté le pays, comme l'importance prise par les stations de sport d'hiver, nous dit Jean Saunier, contribue ainsi par une part non négligeable à l'activité financière. La Jet Society peut à la fois jouir de luxueux loisirs et continuer à faire des affaires. Et plus d'un tyran, d'un monarque ou d'un brasseur d'affaires vont régulièrement skier et veiller sur leur compte, comme le faisait l'ex-Shah d'Iran.
pour Jean Saunier, il faut chercher, entre autres, dans notre histoire, pour essayer, plutôt dans l'histoire suisse, parce que pas tout le monde s'identifie à cette histoire, il faudrait donc chercher dans l'histoire suisse les raisons de ce développement bancaire. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas complètement oublié les notions d'histoire insufflées à l'école, ils se souviennent peut-être de cette existence des mercenaires. Les mercenaires, c'était ces soldats suisses qui allaient se battre dans le monde entier. Alors, pour expliquer aussi... d'après Saunier, ces mercenaires, l'existence de ces mercenaires est un des éléments, bien sûr il y en a d'autres et on va le voir, qui ont contribué à former la structure sociale de la Suisse comme place financière. Alors qu'est-ce qui se passait ? La Suisse était en fait un petit pays qui était très pauvre au point de vue des ressources naturelles, qui avait très peu de surface cultivable et qui, bizarrement, avait un taux, était surpeuplé. Il semble que la population suisse était presque la même que la population anglaise pour une superficie beaucoup moindre. Alors bien sûr, la Suisse n'avait qu'une seule solution, c'était l'émigration, comme le pratiquent actuellement en Suisse d'ailleurs, les Italiens, les Portugais, les Espagnols, etc. C'est simplement un type d'émigration très particulière puisque ça va être une émigration militaire. Les Suisses vont s'engager dans les armées étrangères pour se battre. Et cela, bien sûr, contre paiement. Alors, il y a toutes sortes de mercenaires. Il n'y a pas que des mercenaires de base, qui sont généralement des fils de paysans, d'artisans, qui émigrent, mais aussi des fils de bonnes familles, des syndics, des baillis, etc., qui, eux, vont émigrer et travailler comme officiers des troupes suisses. Donc, on a un type de mercenariat très particulier, puisque ce sont des troupes suisses qui sont dirigées par des officiers suisses qui proviennent de la bourgeoisie suisse. Alors, il y en a, les chiffres sont assez importants, puisque François Ier, par exemple, a eu 160 000 Suisses sous ses ordres. Il y avait environ, dans les autres époques, 20 000 Suisses au service de la France et une soixantaine de mille dans les diverses armées européennes. Et tout cela, ça signifie beaucoup d'argent. Puisque, par exemple, pour le service de la France de 1594 à 1605, il y a eu 36 millions de francs qui sont rentrés en Suisse. D'ailleurs, souvent, les Suisses se retrouvaient face à face à s'entretuer au service de deux princes différents. Beaucoup donc de Suisses ont laissé leur vie et ont stourbi pas mal de gens, mais tout cela a quand même tout cela. Mais ils se sont fait payer et certains se sont fait payer grassement. C'est donc, comme on l'a vu, des capitaux très importants qui vont rentrer en Suisse. Alors ça, c'est un des premiers aspects du mercenariat, c'est le fait que ça, la surpopulation allait à l'étranger et que ça ramenait une quantité d'argent très importante pour la Suisse. Le deuxième élément aussi assez important, c'est le fait qu'à travers ces mercenariats, il y a tout un réseau qui s'est institué à l'étranger. Et ce réseau, bien sûr, a pu servir de base à ensuite un réseau financier. Comme le dit Jean Saunier dans son livre... Et je cite, « Il entraîna la création de véritables réseaux suisses dans le monde. Sans doute fait-on la guerre, mais on ne fait pas tous les jours la guerre. On se lie d'amitié, on aime, on festoie, on se marie. Et même si l'on revient au pays, on garde des relations dans le monde entier. Les Suisses servent en France, en Savoie, en Italie, en Espagne, en Autriche, en Afrique et en Asie. Par exemple, des Suisses se battent à Bornéo pour le compte des Hollandais. Un régiment neuchâtelois va combattre en Inde. On retrouve un Bernois commandant la flotte danoise, un Génois crée la flotte russe en 23, et un descendant d'Argovien va être à la tête de la flotte américaine. Comme vous voyez, on trouve des Suisses partout dans le monde, toujours dans la guerre. Ce cynisme, cette manière de ce service à l'étranger qui remet bien en question d'ailleurs le principe de la neutralité suisse, nous montre bien que le réalisme, on peut bien y parler du cynisme, qui n'empêche pas les banquiers suisses de faire des affaires avec les régimes racistes d'Afrique du Sud au nom de l'intérêt de l'économie suisse, ne date pas d'hier. Les aristocrates, les vieilles familles, approuvées par l'État, n'ont pas hésité pendant plusieurs siècles à envoyer leurs propres enfants s'entretuer sur tous les champs de bataille d'Europe, parce qu'il le fallait pour assurer la survie de la Confédération helvétique, surpeuplée et sans grandes ressources naturelles. Et tout ça a bien sûr enrichi notre beau pays. L'État complète ainsi le salaire des vendeuses. Et pourtant, ce ne sont pas des cas sociaux.
If you happen to be rich and feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What?
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor.
Money, 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 money,
money, money, money.
Bien, c'était une musique tirée du film Cabaret, chantée par Lisa Minnelli, qui dit « Money makes the world go round », c'est l'argent qui fait tourner le monde. Je vous rappelle donc que nous sommes Radio Pleine Lune, la radio des femmes qui bougent, et ce soir nous parlons d'un sujet éminemment non féminin, puisque nous parlons des banques, et nous nous sommes posé un peu la question de savoir pourquoi la Suisse était devenue ce qu'elle est, ce paradis bancaire, ce paradis pour les banques, non pas en tout cas pour les gens qui y habitent, et on s'est appuyé sur un livre de Jean Saunier, qui s'appelle « Le pouvoir des banques suisses ». Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 20 01 93, en faisant le 023 depuis Genève, pour donc toute information, pour toute suggestion, ou tout ce que vous voulez savoir ou dire. Alors on essaie d'expliquer, donc le livre essaie d'expliquer, nous avec, comment s'est formée donc historiquement cette place bancaire. Alors on a expliqué que le fait des mercenaires était un des éléments. Et puis il y a aussi, donc puisque on parle toujours de cette fameuse mentalité suisse, une tentative d'expliquer cette mentalité. Cette mentalité basée sur une morale, sur un moralisme issu très étroitement du protestantisme et aussi indirectement, aussi par certaines parties catholiques, mais le protestantisme a été très très lourd. Comment donc s'est formée cette mentalité suisse qui existe, même si nous sommes nombreuses et nombreux à ne pas nous y reconnaître? En tout cas, c'est celle des banquiers et celle qui sert à masquer leur cynisme et leur combine. Jean Sigler, par exemple, parle du secret bancaire qui, pour lui, est bien plus qu'un article législatif et qui est presque une religion. Alors, on va vous citer ce qu'il dit. On trouvait ça très intéressant. Le maniement de l'argent a en Suisse un caractère quasi sacramental. Garder l'argent, l'accueillir, le compter, thésauriser, spéculer, receler sont des activités qui, depuis le temps du premier refuge, sont investies d'une majesté quasi ontologique. Aucune parole ne doit venir souiller une activité aussi noble. Elle s'accomplit dans le recueillement, dans le silence. Quiconque commet le péché de trop parler la désacralise. Un tel sacrilège est puni par la loi. Ce silence et ce recueillement ont, dans la théorie calviniste de la thésaurisation sacrée, un corollaire. Le banquier genevois, balois zurichois ou balois au Panama, assume sa fonction de gardien intransigeant de la morale. Face à ce monde de méchants, de mécréants, son silence protège la vertu. Seul l'honnête homme profite du secret bancaire. Le secret est la récompense de son honnêteté. Dépositaire et gardien vigilant de la morale chrétienne, le banquier genevois n'accepte en principe comme débiteur ou créancier qu'un homme dont la vertu lui est connue. En principe, il ne fait d'opération qu'à l'intérieur du champ défini par les préceptes de l'Église et les lois de l'État. Cette citation de Sigler, tirée d'un Suisse au-dessus, une Suisse au-dessus de tout soupçon, montre bien comment le moralisme protestant a pénétré le monde des affaires, en tout cas au niveau idéologique. Dans l'ambiance, cette musique de fond est tirée du film La banquière. Alors, est-ce que oui ou non, la religion, et en particulier la religion protestante, est un des fondements du capitalisme financier suisse? Il est difficile de répondre à cette question controversée par les historiens, et en tout cas, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Notre but, c'est pas de trouver la cause, mais de comprendre quel ensemble de facteurs, historiques, sociaux, etc., ont fabriqué la Suisse comme centre mondial du recel. Est-ce que nous sommes tous et toutes des recelleurs, comme le disait méchamment Lénine, citons les sources et nos dieux. Une nation qui parlait de la Suisse comme une nation de recelleurs. Bon, nous savons bien nous-mêmes que si nous happons avidement toute miette qui veut bien tomber dans notre poche de ce gâteau monstrueux, il y en a plein de sous partout. Par exemple, pour vous citer une petite anecdote, le journal de Genève, au mois de juin, parlant du budget de la ville et de l'État, décrit les différentes subventions et les 35 000 francs pour le bois de la bâtie, ça s'appelle le budget anti-casse, sans commentaire. Ça, c'est une typique miette. Quand on pense aux milliards entreposés dans les sous-sols du centre-ville. Rêvons un peu. Bon, on s'égare. Alors, voyons un peu quelles sont donc les qualités nécessaires pour faire un bon banquier. Nous allons donc citer un très sérieux ouvrage de technique bancaire, qui est lui-même cité par notre favori, M. Saunier, qui parle donc de quelles sont les conditions, les vertus, l'être le banquier idéal. Tout d'abord, le banquier doit savoir reconnaître le bon client du mauvais. On est d'accord, c'est assez intéressant. On dira que, bon, on vient d'arrêter Gelli, le grand chef de la loge P2 en Italie, qui venait chercher le fric de la banque, du banque Ambrosiano, qui a fait faillite et dont le directeur a été trouvé pendu sous un pont à Londres. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire pour les banquiers, un bon client du mauvais. Mais en tout cas, ça semble être une de leurs préoccupations, de savoir en tout cas le reconnaître. Textuellement, il parle de séparer le bon grain de l'ivraie, le bon grain de l'ivraie. Le bon client, le bon chef d'entreprise à qui on peut avancer des fonds doit être honnête, persévérant, avoir l'esprit de sacrifice. Cet esprit de sacrifice, il doit l'avoir jusque dans sa vie privée, qui doit être en accord parfait avec sa vie professionnelle et publique. Ce qui d'ailleurs va permettre aux banquiers de faire une enquête sur la vie privée des gens qui travaillent avec eux. Les banquiers seraient donc les gardiens de la morale des possédants du monde entier. Banquier. Lui, il doit être optimiste, mais pas trop. Prudent, mais sans manquer d'audace. Il doit surtout être ferme face au client qui veut l'entraîner. Enfin, il ne doit pas souffrir du péché d'orgueil. À ce propos, on va citer une citation que cite Willy Scher. L'orgueil peut avoir des conséquences néfastes. C'est ce sentiment qui peut entraîner un banquier à consentir un crédit à la légère, c'est-à-dire sans que les études habituelles soient faites, et dans le seul but d'entrer en relation d'affaires avec une personnalité ou une entreprise renommée. Ce genre de décision est quelquefois pris également en raison de l'esprit de compétition existant entre les banques. Et c'est également l'orgueil qui anime parfois le responsable accordant un crédit supplémentaire dans l'espoir de sauver une avance compromise, car ce serait un déshonneur pour lui que d'essuyer une perte. Et nous ne pensons pas devoir insister sur le fait que les décisions prises lorsqu'un sentiment de cette nature prédomine ont souvent des conséquences fâcheuses pour le prêteur. Thank you. l'orgueil comme c'est mal. Étonnante réduction de la politique bancaire à des vertus ou à des péchés.
Toutes ces considérations morales nous ramènent à la question du protestantisme. En effet, tous les auteurs sont d'accord que la réforme a certainement joué un rôle, comme les mercenaires, non seulement idéologique, mais aussi directement matériel. En effet, suite à la révocation de l'édit de Nantes en 1685, voilà qu'on rafraîchit vos souvenirs scolaires encore une fois, des milliers de huguenots français arrivèrent en Suisse. L'histoire officielle, telle qu'on la raconte dans les écoles, parle surtout de pauvres gens accueillis par ces braves Suisses qui se serrèrent la ceinture pour leur venir en aide. C'est certainement vrai en partie, mais d'après un historien tout à fait sérieux cité par M. Saunier, cet historien s'appelle M. Raoul Stéphane. Les suites de la révocation de l'édit de Nantes, les voici. Plus de 200 000 Français s'exilèrent. L'élite morale d'un peuple, des soldats, des marins, des magistrats, des savants, des industriels, des artisans. Vauban compte 9 000 matelots, 12 000 soldats, 600 officiers qui passèrent à l'étranger avec les manufactures les plus florissantes, avec 60 millions d'argent monnayé. La France en fut appauvrie, les nations voisines enrichies. Voilà, après ce petit morceau de Jean-Sébastien Bach, c'était la troisième suite, pour vous mettre dans l'ambiance historique, on continue de parler des émigrés huguenots. Je continue de vous lire quelques extraits de mon livre que je trouve tout à fait intéressant. C'est l'émigration française huguenote fut également le fait de grandes fortunes provenant de l'industrie et de la banque, et aussi d'artisans et de manufacturiers de haut niveau. L'horlogerie, introduite en Suisse par Charles Cusin, je vous rappelle que M. Charles Cusin a sa rue dans le quartier des Paquis, dès 1587, Charles Cusin était un bourguignon, en acquérera l'horlogerie un développement accru. Ce qui est important, en fait, c'est que cette véritable diaspora réformée pourra, et en l'occurrence c'est la moindre des choses, maintenir à l'échelle européenne, voire mondiale, des relations familiales et ou professionnelles qui certainement joueront un rôle dans le développement des affaires commerciales et bancaires subséquentes. En effet, il y a eu des émigrations huguenotes, pas seulement vers la Suisse, mais aussi vers l'Angleterre, vers la Hollande, vers la Prusse, et aussi vers les États-Unis, où la haute société protestante est extrêmement importante. On a vu donc qu'à deux reprises se développent des réseaux, le premier réseau, celui des mercenaires, et puis maintenant le réseau des huguenots, qui donne des conditions matérielles tout à fait favorables au développement d'un réseau de haute finance. Voilà, toutes ces considérations nous amènent tout gentiment au thème de la neutralité. En effet, toute la politique de la Suisse, toute l'histoire de la Suisse a été visée à la construction de cette neutralité. Et cette fameuse neutralité de la Suisse, qui s'est donc construite au cours des siècles, joue actuellement et a déjà joué beaucoup dans l'histoire le rôle de renforçateur de la crédibilité de la Suisse aux yeux des spéculateurs. En effet, c'est un argument de plus pour mettre son argent aux Suisses. La Suisse est à l'abri des guerres.